C'est le mardi 13 et non le vendredi 13. Heureusement, si vous êtes superstitieux, bien sûr, Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène et bonne journée mondiale de la radio.
Oui, bonne journée mondiale de la radio à vous aussi, chers collègues, et à tous ceux et celles qui aiment la radio comme nous, on l'aime passionnément.
Alors, en ce 13 février, événement marquant, dossier éphéméride, allons au 13 février 1542, la cinquième femme de Henri VIII, Catherine Howard, est décapitée pour adultère. 1633, à Rome, l'astronome Galileo Galilei est arrêté par l'Inquisition qui, le menaçant de torture, le fait abjurer sa théorie farfelue que la Terre tourne autour du Soleil.
Tu parles d'une histoire, toi.
Quel clown, hein, ouais. Quand même.
Franchement.
1866, au Missouri, première attaque de la banque par Jesse James et sa bande. Ce Jesse James, cette légende du Far West. 1895, encore un 13 février, les frères Lumière déposent le brevet du cinématographe. 1920, la Suisse est admise à la Société des Nations qui lui attribue, on le sait, une neutralité perpétuelle. 1969, une bombe fait 27 blessés à la Bourse de Montréal. Le Felkis sera condamné à la prison à vie pour cet attentat. 13 février 1972, Led Zeppelin se voit forcé d'annuler un concert que le groupe devait donner à Singapour. Les officiels n'ont pas laissé les membres du groupe quitter leur avion sous prétexte, tenez-vous bien, qu'ils avaient les cheveux trop longs.
Pour vrai?
Eh oui.
En quelle année, ça, Jean-Sébastien?
1972, à Singapour, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux aussi longs que les membres de Led Zeppelin les avaient.
Ils ont manqué un bon show.
1985, toujours le 13 février, à Québec, est reconnu coupable de 3 meurtres commis à l'Assemblée nationale le 8 mai 1984. Et on taira le nom de ce meurtrier car on nomme souvent la personne qui commet le crime, mais trop rarement, les victimes. Oui. Alors on se rappelle des victimes, Camille Lepage, Georges Boyer, et Roger Lefrançois. 1988, ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Calgary. 13 février 1992, suicide assisté de Nancy B à l'Hôtel-Dieu de Québec après avoir obtenu l'autorisation légale que ses médecins débranchent son respirateur. Nancy B était âgée de 25 ans et souffrait du syndrome Guillain-Barré. Et en 2011, le 13 février, au gala des prix Grammy, le groupe rock montréalais Arcade Fire obtient le trophée de l'album de l'année pour l'album The Suburbs, qui créera une stupéfaction auprès des gens qui ignoraient l'existence de ce groupe et s'attendaient à ce que d'autres vedettes obtiennent ce fameux prix. Anniversaire de naissance en ce 13 février, en 1903 à Liège, naissait l'écrivain Georges Simenon. Et 13 février 1999, on perdait le peintre québécois Marcel Barry. Et le 13 février 2008, le chanteur français Henri Salvador.
Ah, oh, ça fait déjà 10 ans.
Déjà.
Faudrait écouter une chanson d'Henri.
Eh oui.
Merci Jean-Sébastien. À la une de la presse, médecin spécialiste Québec paye une dette de 480 millions. Les 10 000 médecins spécialistes recevront un premier chèque d'environ 12 000 $ en moyenne d'ici le 31 mars. Femmes enceintes souhaitent suivi médical. Se ressourcer en coupant des légumes. La chronique de Stéphanie Grandmont. Jari Slowski-Fraser, Montréal perd encore un fleuron. Et la chronique de Nathalie Petrovski, La guerre comme vous ne l'avez jamais vue, 6 combattants, 3 conflits, une expérience virtuelle du Centre Phi à Montréal a fasciné notre chroniqueuse. « Québec doit 480 millions aux médecins spécialistes, une dépense non récurrente qu'il remboursera sur 4 années financières. Les 10 000 médecins spécialistes recevront un chèque d'environ 12 000 $ en moyenne d'ici le 31 mars, a appris la presse de sources sûres. Ces sommes auraient dû être versées aux médecins en 2015-2016 et en 2016-2017. Elles ne l'ont pas été parce que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, les avait retenues comme levier dans le cadre des négociations avec les spécialistes dont il était responsable, ont confié des sources gouvernementales. La facture a grimpé durant les dernières années, mais l'origine de cette dette vient de sommes non versées à la suite des ententes conclues par le gouvernement Marois. Cette somme de 480 millions était déjà inscrite dans le budget de Carlos Letao déposé il y a un an. Ce sont des sommes qui s'accumulent. Elles sont constituées des augmentations qui avaient été convenues depuis 2014, mais qui n'avaient pas été versées. Ce remboursement n'est pas un montant forfaitaire uniforme, il sera versé en fonction du niveau de facturation du médecin, expliquent des sources proches de l'entente. Québec a une ardoise semblable avec les médecins omnipraticiens. Dans leur cas, elle s'élève à 650 millions de dollars. Le ministère des Finances et le Conseil du Trésor doivent faire le point entre eux aujourd'hui au sujet des conséquences exactes sur les finances publiques de l'entente de principe avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Chose certaine, Gaétan Barrette ne cachera pas qu'il éprouve des réserves à l'endroit de l'accord conclu. Il est peu probable qu'il le défende à la période quotidienne des questions à l'Assemblée nationale. Vers un système d'avis de grossesse à Montréal. À Montréal, 4 femmes sur 10 ne sont pas suivies durant le premier trimestre de leur grossesse, s'inquiète la direction de santé publique de la ville, alors qu'une visite chez un professionnel de la santé avant la 13e semaine de gestation est jugée primordiale. Pour mettre fin au risque qu'encourent ces femmes, un système d'avis de grossesse est en préparation, a appris la presse. Le premier trimestre de grossesse, c'est là que tout se passe. C'est à ce moment-là que le bébé se forme en grande partie, fait d'abord observer la docteure Chantal Lacroix, médecin conseil à la Direction de santé publique de Montréal. C'est aussi à ce moment-là que sont entrepris des dépistages pour la trisomie, mais aussi pour le VIH. Si une trithérapie est entreprise dès le début de la grossesse, il y a beaucoup de chances pour que l'enfant naisse sans être affecté, précise la docteure Lacroix. Selon les dernières statistiques disponibles, 39 % des femmes enceintes de Montréal ne sont pas vues par un professionnel de la santé au premier trimestre de leur grossesse, 36 % pour l'ensemble du Québec. L'armée commande des lunettes qui simulent l'effet de la marijuana. Alors qu'un sondage suggère qu'un soldat sur 5 consomme du pot régulièrement, la Défense nationale vient de lancer un appel d'offres pour acheter 26 trousses de simulation de marijuana, incluant des lunettes visant à sensibiliser ses troupes à l'utilisation néfaste et dangereuse du cannabis. Les trousses devront être livrées d'ici le 30 avril et inclure 5 activités stimulantes différentes qui sensibilisent les participants au danger du cannabis ainsi que 200 paquets de labyrinthe recto-verso testant la fonction exécutive et 6 balles d'activités de couleurs différentes, précise l'appel de soumission. Le contrat pourrait coûter jusqu'à 170 000 $ sur 5 ans pour acquérir ses trousses pédagogiques et faire expérimenter directement aux soldats l'effet du cannabis. Les forces armées canadiennes interdisent l'utilisation de la marijuana officiellement à cause des risques de douleurs thoraciques qu'elle pourrait provoquer lors d'un effort intense. Dans une situation de combat, il faut être en mesure de supporter un effort physique extrême en tout temps. C'est un grave problème que d'avoir l'impression d'avoir une crise cardiaque chaque fois qu'on doit courir, prévient un site de la Défense nationale destiné aux militaires. Cette initiative permettra de s'assurer que les militaires des Forces armées canadiennes occupant des postes de direction seront en mesure d'identifier les signes de consommation de drogues interdites d'aider à détecter ces drogues et de fournir des conseils en matière d'usage interdit de drogue, a indiqué le Bureau des relations publiques de l'armée dans un courriel. Desjardins a annoncé hier qu'elle a lancé un processus de révision du cas de l'auteur Samuel Archibald, qui a publié le week-end dernier dans la presse un texte où il explique vivre une dépression et se battre contre sa compagnie d'assurance qui refuse de lui verser des prestations d'invalidité. Dans son texte, qui a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux, il explique que Desjardins Assurance, à qui il verse des cotisations depuis qu'il est employé à l'Université du Québec à Montréal en 2009, refuse de lui verser ses prestations puisqu'il a maintenu certaines activités professionnelles depuis le début de son congé de maladie. Desjardins reconnaît la maladie mentale comme invalidante et est particulièrement sensible à cette cause. D'ailleurs, comme assureur collectif, nous accompagnons chaque année des milliers de personnes en favorisant d'abord le traitement et la santé, puis le retour au travail, en respectant les capacités, les limitations et le rythme de chacun, a répondu le mouvement Desjardins dans un communiqué. Près de la moitié de nos dossiers d'assurance collective sont des cas d'invalidité et le taux de refus pour les cas de santé mentale se situe sous la barre des 5 %. Desjardins a pris connaissance de la lettre ouverte de Samuel Archibald. Nous sympathisons avec sa situation et comme ce dossier n'a jamais fait l'objet d'une réévaluation, nous avons rapidement mis en branle un processus de révision hier, a-t-on poursuivi. Une centaine d'écoles publiques et privées de la province devront se tourner vers un nouveau fournisseur d'uniformes scolaires puisque les entreprises Maison Piacente et Uniformes Sauvés sont contraintes de déclarer faillite. Joint par la presse, le président des deux entreprises s'est fait avare de commentaires sur les raisons ayant mené à cette décision. Faute de dénouement concluant, on en est arrivé là, a seulement déclaré François Beauvais. Il n'a pas voulu préciser combien d'employés perdent par conséquent leur emploi. C'est un chiffre qui fait mal à dire, a affirmé François Beauvais, tout en ajoutant que beaucoup d'étudiants étaient embauchés par l'entreprise durant la période estivale. Les deux entreprises fournissaient environ 50 000 élèves de la province, avait affirmé François Beauvais à la presse plus tôt cette année. Asma Jahangir, fondatrice de la Commission pakistanaise des droits de l'homme, a affronté menaces de mort, coups et passages en prison dans des affaires de défense des droits humains au cours de sa vie. La pakistanaise, qui a tenu tête à des dictateurs, a finalement succombé à un arrêt cardiaque à l'âge de 66 ans. Hier, le secrétaire général des Nations unies a rendu hommage à Mme Jahangir. Elle était une infatigable avocate des droits inaliénables de tous les peuples et de l'égalité. Que ce soit en tant qu'avocate pakistanaise, militante globale de la société civile ou rapporteur spécial, a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué. Polynésie, le puissant cyclone Jita a frappé hier l'archipel des Tonga dans l'océan Pacifique, provoquant inondations et coupures de courant et faisant s'envoler des toitures selon les autorités qui ont déclaré l'état d'urgence. Accompagné de vents atteignant 230 km/h et de pluies diluviennes, Jita est passé juste au sud de la capitale Nuku'alofa sans l'atteindre directement. « Je travaille dans les secours depuis plus de 30 ans et c'est la pire situation que j'ai connue », a raconté Graham Kenna, un responsable du Bureau national des urgences à Radio New Zealand. Oui, oh, oui, oui. Oh, oui, oh, oui.
En lien avec l'anniversaire de décès d'Henri Salvador qui nous a quittés il y a 10 ans aujourd'hui, M. Salvador, qui a popularisé ce grand classique « Le lion est mort ce soir ».
À la une du Devoir de ce mardi 13 février, la commission Vient s'arrête à Montréal. La commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec a amorcé ses audiences à Montréal lundi. L'aîné Mohawk Cédalia Fazio, qu'on voit en une, a ouvert les travaux en racontant comment son fils, alors âgé de 13 ans, avait été battu par des policiers à l'époque de la crise d'Oka. Trudeau et deux ministres accusés d'ingérence. L'acquittement d'un fermier blanc du meurtre d'un Autochtone fait débat au Parlement. Environnement, la primeur à un lobby patronal. Les règlements de la nouvelle loi sur l'environnement publiés ce mercredi seront présentés aux entreprises en premier. Mardi Gras, chanter, danser, mais surtout dénoncer. Le carnaval d'Haïti apparaît comme un moment exceptionnel de subversion. De Venise à Rio, en passant par la Nouvelle-Orléans, Bogota et Port-au-Spain, des rues seront aujourd'hui bondées pour les fêtes du Mardi Gras. Ces danses, ces rythmes, ces costumes extravagants, ces excès, ces transgressions, le carnaval est un défoulement collectif durant lequel le simple citoyen devient roi et le pouvoir sujet aux railleries, voire aux contestations. Économie, Jarislowsky Fraser passe aux mains de la Scotia. La banque émettra 950 millions en actions pour financer l'acquisition du gestionnaire de portefeuille montréalais. JO ou Jeux olympiques 2018, je l'ai fait, s'est exclamé Michael Kingsbury. Culture, pourquoi se méfier encore du hip-hop? Le gouvernement Trudeau se défend d'avoir dépassé les bornes en déplorant publiquement le récent acquittement d'un fermier blanc de Saskatchewan qui a abattu un jeune autochtone il y a 2 ans. Les libéraux arguent qu'ils ont simplement fait preuve de compassion. L'opposition, elle, les accuse d'ingérence politique. Le verdict est tombé vendredi dernier. Gérald Stanley, 56 ans, a été reconnu non coupable du meurtre de Colton Bushy, 22 ans, qu'il a tué d'une balle derrière la tête alors que le jeune se trouvait sur son territoire privé en compagnie de 4 amis autochtones au mois d'août 2016. Les 12 jurés retenus pour ce procès étaient de race blanche. En soirée vendredi, Justin Trudeau et ses ministres réagissaient sur Twitter. « Je ne peux imaginer la douleur et la tristesse que ressent la famille Bushy ce soir. » Se désolait le premier ministre. « Comme pays, nous pouvons et nous devons faire mieux », renchérissait la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. La réplique n'a pas tardé. Certains avocats ont jugé la réaction fédérale inappropriée. La conservatrice Cathy McLeod a martelé sur Twitter qu'il fallait laisser se dérouler les multiples étapes d'un processus judiciaire indépendant sans ingérence politique. Une part de la solution, selon la famille Bushy, serait d'en finir avec les récusations péremptoires, ces procédures qui permettent à la défense et à la couronne de rejeter certains candidats jurés sans explication. Au procès de Gérald Stanley, la défense a rejeté tous les candidats jurés qui semblaient avoir des traits autochtones. Certains hommes blancs d'âge moyen et des jeunes femmes ont aussi été écartés, selon le Globe and Mail. Déclaration de candidature, les personnes souhaitant se présenter aux élections pourraient ne plus avoir besoin de fournir une photo tête découverte, comme l'exigeait la déclaration de candidature jugée discriminatoire par certains partis. Le directeur général des élections, DGE, a en effet déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale un projet de modification du règlement pour exiger des photos à visage découvert, permettant ainsi à des personnes portant le turban sikh, le hijab, ou tout autre couvre-chef de poser leur candidature. Les divers amendements au règlement proposé par le DGE, Pierre Reid, précisent également que la photographie accompagnant le formulaire de candidature sera de type passeport et devra donner une vue de face ou légèrement de biais. Ces changements devront toutefois être approuvés par la Commission de l'Assemblée nationale. Dans une lettre transmise au président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, le DGE a subtilement rappelé l'urgence pour l'adoption du règlement. Le gouvernement canadien a exhorté lundi l'Iran à lui fournir des explications sur le décès dans une prison iranienne d'un universitaire et écologiste irano-canadien moins d'un mois après son arrestation. Le Canada est préoccupé par les circonstances entourant la mort de Qavous Seyed Emami. Nos pensées sont avec sa famille, a réagi sur Twitter le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Omar Al-Ghabra. Le Canada a demandé aux autorités iraniennes de fournir des réponses, a-t-il souligné. Amnesty International a de son côté exigé une autopsie indépendante face à la volonté de Téhéran de cacher toute preuve de torture et d'un possible meurtre. Qavous Seyed Emami, irano-canadien de 63 ans, était le directeur de la Fondation pour la Faune Persane qui œuvre à la protection des espèces menacées en Iran. Il avait été arrêté le 24 janvier et sa famille a été informée vendredi de son « suicide » entre guillemets en prison. Procès Normando Côté, les journalistes n'auront pas à témoigner. Première décision judiciaire depuis l'adoption de la loi fédérale sur les sources journalistiques. Les avocats de la Défense n'ont pas réussi à convaincre la Cour que les journalistes devaient divulguer leurs sources en marge du procès Côté-Normando à Québec. Dans une décision rendue lundi, le juge André Perrault écrit que les renseignements que détiennent les journalistes Marie-Maud Denis et Louis Lacroix dans ce dossier étaient pertinents. Or, ajoute-t-il, l'intérêt public à préserver la source l'emporte ici sur l'intérêt dans l'administration de la justice. « Le scandale touchant l'ONG Oxfam sur le recours à des prostituées et de potentielles agressions sexuelles par certains de ses agents en mission à Haïti et au Tchad a entraîné lundi la démission d'une dirigeante et la création d'une unité de contrôle des ONG par le gouvernement. Exprimant sa tristesse et sa honte à propos d'accusations relatives à la conduite d'employés au Tchad et à Haïti, impliquant le recours à des prostituées, Penny Lawrence a annoncé sa démission de ses fonctions de directrice générale adjointe, affirmant assumer l'entière responsabilité. Elle a expliqué dans un communiqué que les comportements inappropriés du directeur pays officiant au Tchad et de son équipe avaient été signalés avant qu'il se rende en Haïti. Nous n'y avons pas répondu de manière adéquate, reconnaît-elle. Le magazine de référence dans l'industrie Air Transport World a nommé Air Canada transporteur écologique de l'année pour 2018. La publication retient l'engagement du transporteur à réduire ses émissions en appuyant la production de carburant de remplacement et cite ses nombreux programmes et partenariats écologiques. On y souligne aussi qu'Air Canada est le premier transporteur dans le monde à s'être joint volontairement à la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale. Ici Hélène Denis, un grand merci d'écouter le quotidien des quotidiens de ce mardi 13 février, journée mondiale de la radio. Bravo! Et je vous invite à rester avec nous, à écouter de la radio de qualité grâce à Canal M de Vues et Voix. À la suite, donc, avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Le gros, donne-moi tes clés, tu pètes la balloune. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minoune. De la score est passée, y a plus un chat en place. Viens, je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu parles de tirer, puis tu sors tes rengaines de gars qui est déprimé. Mais comment ne fais pas le con, faut savoir s'accrocher. T'sais, les mauvais cotons, ça finit par passer. En plus, j'aurais plus personne. J'aurais pu mon vieux chum, il viendrait me baumer des tops quand ça va mal à shop. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50$. Les spots sont allumés, le patron compte sa caisse. La waitrice est tannée, il faudrait bien qu'on se presse. Thierry, moi aussi, j'en viens à me demander à quoi ça sert la vie quand ça se met à clocher. Et puis je trouve que par bout, c'est vraiment pas facile qu'on est bien seul sur la route dans cet univers débile. Mais rendons à maison, t'as un flot qui t'adore. C'est une vraie bonne raison pour pas passer de l'autre bord. Puis moi, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum, celui que je pleume à chaque année avec le pool d'hockey. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, puis tu me dois encore 50$. Au lieu de tirer la plug sur ta crise de vie de bombe, essaie de lâcher la drogue, puis de faire de toi un homme. Parce que moi, j'veux retrouver le vieux chum que j'ai connu. Mais personne peut t'aider si toi, tu te bottes pas le cul. Le boss boy passe la mop, ils vont barrer les portes. On se fume une dernière top, après faudrait qu'on sorte. Juste au moment de se lever, il a fini par me dire de pas trop m'inquiéter, puis qu'il allait essayer de se ressaisir. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres.
Extrait de l'album Break Syndical, un album qui atteint l'âge de l'adolescence, paru en 2002, donc 16 ans cette année, Les Cowboys Fringants et la pièce Mon Chum Rémi.
En une du Journal de Montréal, une autre enquête de l'UPAC inachevée malgré des témoignages troublants à l'hôpital général juif. Les Olympiques chez les sœurs Dufour-Lapointe, un mélange de joie et de larmes, la chronique de Régent Tremblay. Michael Kingsbury a maintenant tout gagné, le king de son sport. Enquête mystérieusement arrêtée. Une enquête interne à l'hôpital général juif de Montréal a été arrêtée mystérieusement au moment où s'accumulaient les allégations sur un système de contrat truqué pour un méga projet d'agrandissement de 425 millions. Et l'UPAC refuse de dire si son enquête se poursuit. Essentiellement, les allégations indiquent que plusieurs contrats d'ingénierie et d'architecture étaient octroyés d'avance avant même qu'un comité de sélection bidon rende son verdict. Même l'unité permanente anticorruption rapporte dans des affidavits qu'il y aurait eu trucage d'appels d'offres à l'hôpital. Ces affidavits ont servi à effectuer des perquisitions dans l'établissement et dans des résidences privées lors d'une enquête concernant de la fausse facturation. Toutefois, aucune accusation n'a été portée à ce jour. L'hôpital général juif a refusé de répondre à nos questions spécifiques. La porte-parole Stéphanie Mallet s'est contentée de dire que les processus ont été suivis et que les allégations ont fait l'objet de vérifications exhaustives. L'hôpital général juif considère ce dossier clos, a-t-elle affirmé. Québec retarde un projet de digue à Deux-Montagnes. La ville de Deux-Montagnes attend depuis l'été dernier que Québec l'autorise à construire 300 mètres de digue visant à protéger ses citoyens contre de nouvelles inondations. Deux-Montagnes croit que l'installation de moins de 300 mètres de digue au coût de 1 million de dollars le long de la rive est la seule solution permanente viable pour éviter les inondations du printemps. La ville est prête à aller de l'avant. L'argent est là, mais le ministère de l'Environnement tarde à donner son autorisation. Par courriel, le ministère de l'Environnement affirme que sa réponse arrivera dans les meilleurs délais. Toutefois, la ville demeure rassurante. Tous les matériaux ont été achetés afin d'installer une digue temporaire formée de blocs de béton et de géotextile au printemps, une solution de repli qu'on dit efficace de 80 à 90. Les inondations à Deux-Montagnes, 276 sinistrés, 26 ont dû être, on parle de maison ici, 26 sinistrés ont dû détruire complètement leur maison. 900 000 de frais pour la ville, moins de la moitié de cette somme sera remboursée par Québec et 1 million, je vous le rappelle, pour des digues. Thank you. L'arrivée massive de migrants à la frontière canado-américaine, surtout l'été dernier, a forcé le gouvernement du Québec à accorder près de 50 millions de dollars en aide financière aux demandeurs d'asile, soit deux fois plus que l'année précédente. À titre comparatif, le ministère de la Solidarité sociale n'a versé que 18,5 millions en prestations aux ménages avec la présence d'au moins un demandeur d'asile en 2016. L'arrivée en poste de Donald Trump à la Maison-Blanche et la mise à exécution de ses menaces d'expulsion des migrants, provenant notamment d'Haïti, a eu tôt fait de changer la donne. On demeure cependant loin des montants versés, notamment dans la foulée du séisme de 2010 en Haïti. Cette année-là, l'aide financière de dernier recours aux ménages, comptant au moins un demandeur d'asile, avait atteint la somme de 73 millions pour redescendre à 58,5 millions en 2011 et 48 millions en 2012. La journée d'un jeune policier qui venait de terminer son quart de travail a pris une tournure inhabituelle mercredi soir lorsqu'il a sauvé la vie d'un homme qui voulait mettre fin à ses jours. L'agent Tommy Fortier du service de police de la ville de Montréal empruntait le pont Champlain lorsqu'il a remarqué un véhicule qui s'est immobilisé. Le conducteur s'est ensuite dirigé vers le bord du pont et a commencé à gravir le muret de béton. Comprenant que l'homme avait l'intention de se suicider, l'agent s'est précipité pour le secourir. Tommy Fortier a réussi à gripper l'homme en détresse et à le calmer. Retard pour les voitures autonomes. Plusieurs grandes villes des États-Unis et du Canada permettent déjà la circulation des autos sans conducteur. Les villes du Québec sont en retard dans le déploiement des voitures autonomes, ce qui pourrait avoir un impact sur la sécurité automobile. Au début, il y aura une cohabitation entre les voitures autonomes et les voitures avec conducteur, mais rapidement, on va se rendre compte qu'il est irresponsable de laisser les humains conduire, dit Nicolas Genet, chroniqueur techno. Drame aérien en Californie, l'écrasement d'un avion a fait 4 morts de la même famille dimanche à Santa Clarita. Thomas Hastings, 65 ans, était aux commandes de l'appareil. Sa fille, 27 ans, son conjoint de 25 ans ainsi que sa petite-fille de 9 ans occupaient les autres places. On ignore jusqu'ici ce qui a pu causer l'écrasement de l'appareil Cirrus VK-30. Barack et Michelle Obama ont dévoilé hier leurs portraits peints par des artistes noirs et commandés par la National Portrait Gallery, célèbre musée de Washington spécialisé dans les toiles représentant de grandes figures de l'histoire américaine. Le peintre Kehinde Willie a utilisé pour Barack Obama la technique qui l'a rendu célèbre, consistant à montrer son sujet sur un fond fait de motifs répétitifs. M. Obama a semblé satisfait de l'œuvre et a félicité Amy Sherald, l'artiste qui a réalisé le portrait de son épouse. La peintre, basée à Baltimore, près de Washington, a su capturer de manière si spectaculaire la grâce, la beauté, l'intelligence, le charme et la sensualité de la femme que j'aime, s'est enthousiasmé l'ancien président. Comme le veut la tradition, le portrait de Barack Obama sera accroché aux côtés de ceux des anciens présidents américains à la National Portrait Gallery. et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a loué une Corée du Sud très impressionnante avec laquelle il entend poursuivre le réchauffement après le retour des Jeux olympiques d'une délégation de hauts responsables nord-coréens dont sa sœur, a rapporté hier l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Après avoir entendu le rapport de la délégation, Kim Jong-un a fait part de sa satisfaction quant à son contenu et dit que le Sud, qui a réservé un accueil particulier à la délégation de la Corée du Nord, était très impressionnant par ses caractéristiques, a écrit KCNA, ajoutant que Kim Jong-un avait exprimé ses remerciements à Séoul. Le numéro 1 nord-coréen a en outre jugé important de continuer à obtenir de bons résultats en poursuivant le réchauffement du climat de réconciliation et de dialogue.
Tu parles, tu dis, mais tu dis rien. Que des mots en rafale, sans but et sans lien. Tu déraisonnes d'une voix qui grogne, croyant à l'illusion que l'on comprend à la force du ton. Mais voilà que tu éclates à mon plus grand désarroi, rempli de mots disparates que je ne comprends pas. Arrête tes inepties, je veux avoir le cœur net. Tu parles à l'infini, c'est pire qu'une devinette. Un déluge de mots, expulsé exprès, pour laver mon cerveau et te défouler bien fort. Deux âmes qui s'abandonnent et c'est toujours tu perçois le calme dans ma voix. C'est pour qu'enfin tu sois encore plus sûr de toi, commandé par l'emprise des émotions qui grondent, te prennent et te conduisent aux abysses les plus sombres. Mais tu cries, tu cries.
Entendre Amélie avec la pièce Mes oreilles.
Une chronique signée Denis Graton intitulée Une grand-maman en or. Son cri de joie a retenti dans la maison lundi matin, a en réveillé tout le voisinage et même toute la ville de Gatineau. Son petit-fils, Michael Kingsbury, venait de remporter la finale de l'épreuve des bosses aux Jeux olympiques de Pyeongchang et s'assurait ainsi le seul titre qui manquait à son palmarès, la médaille d'or. Sa grand-mère, qui habite Hall depuis toujours, Denise Thibodeau, 75 ans, a crié et pleuré de joie en regardant son petit-fils brandir le drapeau canadien en signe de victoire. « Je ne trouve pas les mots pour décrire comment je me sens », a-t-elle dit lorsque, jointe par le droit lundi matin, quelques heures après la descente victorieuse de son petit-fils. « Je suis tellement heureuse. Michael a atteint son objectif et je n'en reviens pas. Tous ses rêves se réalisent. Ça me dépasse. Je pète le feu, comme on dit. J'ai fait des pas de danse dans le salon en criant « Merci mon Dieu, merci mes anges », a-t-elle ajouté dans un éclat de rire. Cette médaille d'or de Michael Kingsbury se veut un véritable baume sur deux années difficiles pour ses grands-parents, Denise et Jean Thibodeau. Monsieur Thibodeau est paralysé et habite la résidence Villa des Brises à Gatineau. Et Madame Thibodeau est atteinte d'un cancer au poumon. « Un cancer très avancé », dit-elle. « La maladie ne nous a pas épargnés en 2016, mon mari et moi. » Mais la maladie n'allait pas empêcher Madame Thibodeau de regarder son petit-fils remporter l'or. Elle lui avait d'ailleurs promis d'être devant son téléviseur lorsque le grand jour arriverait. Elle raconte « À sa dernière visite chez nous l'automne dernier, Michael m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Grand-maman, fais-moi une promesse. Promets-moi d'être là pour les Jeux olympiques. Et je suis là pour lui aujourd'hui. J'ai tenu ma promesse et là je suis comme Michael. Je rêve que je serai encore là dans 4 ans. Mais j'ai une grosse lutte qui m'attend. » Est-ce que votre époux a regardé la descente de Michael ce matin en parlant du jour où Michael était sur la piste? Ah oui, je l'ai réveillé ce matin. J'ai appelé à la résidence jusqu'à ce qu'il réponde. Il dort beaucoup avec les médicaments et tout ça. Mais il m'a finalement répondu et il n'a pas manqué ça. Il est tellement fier de son petit-fils. Madame Thibodeau avoue qu'elle est légèrement appréhensive lorsqu'elle regarde Michael dévaler les pentes de ski. « S'il fallait qu'il se blesse. »« J'ai mes craintes, dit-elle, mais je fais comme Michael. Je rentre dans ma bulle. » Et ce matin, j'étais dans ma bulle. J'étais très sereine. C'était plutôt curieux parce que je suis habituellement très nerveuse en le regardant en compétition du circuit de la Coupe du monde. Et ce matin, c'était pour la médaille d'or aux Jeux olympiques. J'aurais dû être doublement nerveuse. Mais non, j'étais sereine. Et là, je savoure la victoire. Madame Thibodeau n'est pas surprise par la performance de son petit-fils de 25 ans. « Il sautait avant de marcher », lance-t-elle. « Quand il était enfant et qu'il venait nous visiter à Hall, il montait sur les divans en me disant « Grand-maman, je vais sauter, attrape-moi ». Il nous faisait peur, le petit vlimeux. Il était sauteur avant de marcher. Ce n'est pas d'hier, tout ça. Le téléphone de Madame Thibodeau n'a pas dérougi lundi matin. Parents, proches et amis voulaient tous partager leur joie avec elle. « Et là, j'attends l'appel de Michael, dit-elle. Il m'appelle toujours après ses compétitions et j'ai bien hâte de lui parler. Mais je ne sais pas encore ce que je lui dirai. Je pense que je vais laisser la nature trouver les mots. Chose certaine, j'ai bien hâte de le revoir et de voir sa médaille d'or. Je suis tellement heureuse de conclure la fière grand-maman du King des Bosses et champion olympique. » Nouvelliste, cri du cœur pour retrouver un chat pure race. Un vol plutôt inusité est survenu vendredi dernier dans une résidence du secteur Saint-Gérard des Laurentides à Shawinigan. Un couple qui s'est présenté chez une éleveuse de chats de race Rex Corniche ou Rex Corniche se serait vraisemblablement emparé de l'une des bêtes dont la valeur sur le marché s'élève à plusieurs milliers de dollars. Qui plus est, la chatte nommée Sia est sur le point d'avoir une nouvelle portée. Sa propriétaire, très attachée à l'animal, lance un cri du cœur pour la retrouver. L'éleveuse Audrey Hubert entretient depuis des années la passion de l'élevage de ces animaux pure race, dont elle fait la reproduction. Ses clients viennent de partout, du Canada, des États-Unis et même de France. La plupart d'entre eux la contactent directement par Facebook, où ils peuvent avoir des nouvelles de l'élevage et même y voir des vidéos en direct de la pouponnière où grandissent les chatons. C'est justement par le biais de sa page Facebook, Rex Cornish, les frisés, que les présumés voleurs ont contacté Mme Hubert vendredi. Ils étaient pressés de venir les voir. Ils voulaient passer tout de suite. Quand je leur ai expliqué le chemin pour se rendre, ils m'ont coupé la parole et ont dit qu'ils savaient où je me trouvais, explique celle qui tient cet élevage depuis quelque temps déjà. Ça commence à se savoir dans le coin que je fais ça. Alors, ça me laisse croire que ce sont des gens de Shawinigan ou en tout cas qui n'habitent pas loin d'ici, croit-elle. Lors de son arrivée, le couple a commencé à discuter avec l'éleveuse. À un moment, l'homme a indiqué qu'il allait sortir pour fumer une cigarette. La dame a continué de discuter avec Mme Hubert. L'homme est revenu quelques minutes après et a dit qu'il venait de recevoir un téléphone et qu'il devait partir tout de suite. Ils ont quitté, se souvient Audrey Hubert. C'est plusieurs heures plus tard que l'éleveuse s'est aperçue que Sia ne se trouvait plus là où elle avait l'habitude de se retrouver. Elle a cherché partout sans succès. La maison étant équipée de caméras pour la diffusion sur Facebook, elle a constaté que Sia se trouvait à son endroit préféré environ 10 minutes avant la visite du couple. Depuis, plus rien. La jeune éleveuse a lancé un cri du cœur sur sa page Facebook, un appel qui a été partagé près de 2500 fois. Chacun des chats reproducteurs que possède Mme Hubert vaut entre 4 000 et 12 000 $. Un chaton Rex Cornish de cet élevage se vend environ 1 200 $. La plupart proviennent de lignées d'Angleterre, mais Sia est plutôt d'une lignée russe et ukrainienne. Mais au-delà de la valeur monétaire, Audrey Hubert se dit très attachée à l'animal. « Ce sont mes bébés, c'est ma passion, je veux tout simplement la récupérer. » Dans le soleil, Gilbert Leduc, la Beauce redevient la capitale du Denain. Le succès remporté par Yoga Jeans, leur marque de commerce vedette, a forcé les frères Eric et Yakov Wazana à agir à contre-courant des tendances lourdes dans l'industrie du vêtement en Amérique du Nord. S'établir au Québec, en Beauce par-dessus le marché. À Saint-Côme-Linière, plus précisément, une municipalité de 3300 habitants située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec les États-Unis. Une petite voix me disait qu'il fallait conserver et créer des emplois ici, au Québec, raconte Eric Wazana, qui a fondé la compagnie Second Clothing en 2000 et il en dirige les destinées avec son frangin. Ma mère était couturière. À de nombreuses occasions, elle a perdu son gagne-pain dans les ateliers de confection à Montréal en raison de la délocalisation des emplois. Délocalisation des emplois, dis-je bien. Je ne voulais pas contribuer davantage à amplifier ce phénomène. J'ai toujours cru que nous étions bons au Québec et que nous pouvions bien faire les choses, explique Eric Wazana, qui participe actuellement avec 60 autres entreprises et marques québécoises du secteur de la mode à la foire Magic de Las Vegas. Il s'agit de la plus importante exposition commerciale de mode en Amérique du Nord, avec ses 4 000 exposants et ses 60 000 visiteurs. En créant Yoga Jeans en 2007, le jeans le plus confortable au monde, affirme la publicité, Second Clothing a trouvé un véritable filon. Rapidement, les ventes ont grimpé à un rythme de 20 à 25 % par année. Ça allait trop vite. Nous savions que nous allions frapper un mur. Nous n'avions pas suffisamment de sous-traitants pour répondre à la demande, se souvient M. Wazana. Nous avions songé nous installer à Los Angeles comme beaucoup de marques l'ont fait. Nous aurions alors un peu perdu notre âme. La marque Yoga Jeans serait devenue américaine. Il y avait évidemment l'Asie dans le décor. Les marges bénéficiaires étaient alléchantes pour notre compagnie. Cependant, il y avait les risques de perte de contrôle au niveau de la recherche et développement. Il y avait aussi tous les problèmes liés au délai de livraison. Pour les frères Wazana, la meilleure solution était donc de concentrer leur production au Québec en ouvrant une usine. Je vous souhaite un agréable mardi 13 février. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir, les actualités culturelles et d'abord une chanson surprise. C'est Jean-Sébastien qui l'a choisie, comme c'est souvent le cas.
Une des pièces les plus connues de la formation Radiohead, qu'on a pu entendre, cette pièce, No Surprises, dans près d'une vingtaine de films ou séries télé depuis la sortie de cette pièce en 1997, No Surprises.
Actualité culturelle, Denis Villeneuve sera l'un des invités de la 36e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Le réalisateur de Blade Runner 2049 donnera une leçon de cinéma le dimanche 25 février à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, a-t-on annoncé hier matin lors du dévoilement de la programmation. Son récent film sera aussi présenté dans la section Projection spéciale. Le festival proposera un menu de 309 films, dont 90 premières. Le long-métrage « Pour vivre ici » de Bernard Aymon ouvrira le bal le soir du 21 février. Avec Patrick Huard comme porte-parole, les rendez-vous Québec Cinéma auront lieu du 21 février au 3 mars, principalement à la Cinémathèque québécoise, mais aussi à l'Impérial au Quartier Latin et au Centre Pierre Péladeau. Invitation pour ce soir au Centre communautaire de l'Est à Pierrefonds. 19h, il y aura une rencontre d'auteurs avec Patrick Nicole qui parlera de son métier d'écrivain, de son œuvre et particulièrement de son livre « La nageuse au milieu du lac » dans lequel il raconte la vie de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre ce soir à Pierrefonds. Nick Murphy, Feist et le rappeur américain Lil Uzi Vert se produiront au festival Santa Teresa qui aura lieu à Sainte-Thérèse du 18 au 20 mai. Il s'agit d'un grand coup des trois programmateurs de l'événement de la Couronne Nord qui en sera seulement à sa deuxième présentation. Parmi les autres artistes à l'affiche, on trouve Wolf Parade, Michael Sparks, Loud, Hubert Lenoir, Milk and Bone, Fucked Up, Chocolat, Dead Hobbies, Hard Streets et Essaie pas. Par ailleurs, Claude Pelgag présentera une grande messe et ce sera l'occasion de voir le groupe de Mess Thetics qui réunit des membres de Fugazi. Devant le succès public et critique de la pièce « L'homme éléphant », le Théâtre du Rideau Vert annonce deux autres supplémentaires le 28 février et le 4 mars prochain. Dans le rôle-titre, Benoît McGuinness démontre qu'il sait allier finesse et émotion dans un rôle physique très éprouvant. La directrice générale de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, Sartec, change de visage. Le conseil d'administration a annoncé lundi la nomination de Stéphanie Hainaut comme directrice générale en lieu et place d'Yves Légaré, qui, après 29 ans au service de la Société, prendra sa retraite le 30 mars. Diplômée en études cinématographiques et en droit de l'Université de Montréal, et membre du Barreau du Québec, Stéphanie Hainaut a touché tant à la création comme scénariste et réalisatrice ainsi que productrice notamment, qu'à la gestion culturelle et la planification entre autres pour l'UDA et la DISC dans un esprit de concertation et de valorisation. Elle s'engage à poursuivre dans cette voie à la Sartec. Les efforts concertés du milieu culturel sont essentiels pour permettre aux œuvres d'ici d'être valorisées, à leurs créateurs d'être justement rémunérés et ultimement à notre société de s'identifier à des valeurs communes, a-t-elle précisé par voie de communiqué. Le crooner Vic Damone, dont la voix lui a valu d'être décrit comme ayant les meilleures cordes vocales de l'industrie par Frank Sinatra, rien de moins, ça c'est moi qui l'ajoute, est mort en Floride à l'âge de 89 ans, indiqué sa fille lundi. Victoria Damone a confirmé que son père est mort dimanche dans un hôpital de Miami Beach de complications liées à une maladie respiratoire. Les ballades romantiques de Vic Damone lui ont permis de vendre des millions d'albums et de faire carrière pendant un demi-siècle. Après avoir remporté un concours de talent à la radio, Vic Damone a vu sa carrière commencer à prendre de l'ampleur. Ses succès incluent « Again »,« You're Breaking My Heart »,« My Heart Cries For You »,« On the Street Where You Live » et en 1957, la chanson-titre du film de Cary Grant, « An Affair to Remember », Vic Damone et Frank Sinatra, aux côtés de Tony Bennett, Perry Como, Dean Martin et d'autres, ont formé un groupe d'Italo-Américains qui ont dominé le domaine de la musique pop d'après-guerre. Margie Gillis n'est pas de retour puisqu'elle n'a jamais quitté la scène. Sa nouvelle chorégraphie met de l'avant toute son énergie, sa sensibilité, son humanisme et cette fois son désir de transmettre. Deux complices marcheront dans ses pas de danseuse et de chorégraphe libre, soit Troy Ogilvie et Paola Styron. Viriditas est la preuve pour son auteur que le contact entre humains et la pratique de l'art peuvent régler bien des conflits. Le spectacle est présenté à guichet fermé du 14 au 17 février à l'Agora de la Danse. Testament de Johnny Hallyday, une famille à couteau tiré. Une longue bataille juridique s'annonce autour du testament de Johnny Hallyday, mort d'un cancer le 6 décembre 2017 à 74 ans. Les enfants du rocker ont annoncé qu'ils allaient contester le testament de leur père qui confie l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à sa seule femme, Laetitia, par l'effet de la loi californienne. Portrait d'un clan divisé, c'est un article d'Olivia Levy dans la presse d'aujourd'hui. Les déshérités, Laura Smith, 34 ans, comédienne, fille que Johnny Hallyday a eue avec Nathalie Baye. David Hallyday, 51 ans, fils issu de son mariage avec Sylvie Vartan. Laura Smith et David Hallyday ont annoncé hier qu'ils contesteraient le testament de leur père. Celui-ci contreviendrait aux exigences du droit français, où les enfants ont droit à une part de l'héritage, ont indiqué leurs avocats. « J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi », a écrit Laura Smith dans une lettre posthume qu'elle adresse à son père et qui a été transmise à l'agence France-Presse. « Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler ». Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa. Le sais-tu au moins? Je t'entends, papa. Et moi, j'ai choisi de me battre, écrit-elle. Les héritières, Laetitia, 42 ans, veuve de Johnny Hallyday, Jade et Joy, filles adoptives du couple, âgées de 13 et 9 ans. Laetitia, qui avait épousé Johnny Hallyday en mars 1996, est l'unique héritière du patrimoine et des droits d'artiste du rocker en vertu du testament du défunt. Le testament prévoit également qu'en cas de décès de Laetitia, tous les biens de la star seraient exclusivement transmis à ses deux filles, Jade et Joyce, à part égale. Non pas Joyce, mais Joy. Laetitia a exprimé hier son écœurement face à l'éruption médiatique autour de la succession de son mari. Elle a dit regretter que Laura Smith et David Hallyday aient choisi la voie médiatique plutôt que de s'en tenir à un cadre familial et juridique. Elle se dit sereine et entend consacrer toute son énergie à faire respecter l'œuvre et la mémoire de son mari. L'enjeu, dans le droit français, on ne peut écarter ses enfants de sa succession. Il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, ce qui n'existe pas en Californie. L'enjeu est grand et complexe, car il faudra déterminer quel était le lieu du domicile principal de Johnny Hallyday pour savoir quelle sera la loi qui sera appliquée à son testament. Johnny Hallyday vivait entre la France, les États-Unis et l'île de Saint-Barthélemy, où il a été inhumé. Ce que laisse la star Rock, il y a son patrimoine immobilier, des motos et voitures de collection, ainsi que les droits de ses 1300 chansons.
N'être personne, n'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que le soleil n'a jamais jugé personne. Avouez que le soleil, c'est sans compter qu'il se donne. Et ce n'est pas la nature, mais bien la nature de l'homme qui nous fait parfois conclure qu'on peut n'être des temps personne. Quand midi sonne, être un point sur le papier, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que nos grands livres ne tiennent plus vraiment la route, quand nos idéaux dérivent, quand nos rêves sont en déroute. Avouez qu'on sacrifie pour l'ordre ou son semblant des nations que l'on oublie dans la cendre et le sang. Quand midi sonne, être un pion sur l'échiquier, n'être personne, surpris si s'étendent l'orgueil et le mépris. Oui, sommes-nous seulement surpris si en certains soirs on se dit, avouez que tout se tient, tout est bien amalgamé, et que l'homme est une femme ou cet enfant basané. Avouez que l'humanité s'accorde au singulier, et que nous sommes faits de chair, d'eau, de feu, de fumée. Quand midi sonne, être maître ou sacrifié, n'être personne, n'être personne, n'être personne. Quand midi sonne, n'être personne, n'être personne, n'être personne. Quand midi sonne, n'être personne.
Et on vient d'entendre Luc de la Rochelière avec la pièce N'être personne.
Mardi Gras, chanter, danser, mais surtout dénoncer le carnaval d'Haïti apparaît comme un moment exceptionnel de subversion. C'est un texte de Philippe Renaud du Devoir, collaboration à Port-au-Prince. De Venise à Rio, en passant par la Nouvelle-Orléans, Bogota et Port of Spain, des rues seront aujourd'hui bondées pour les fêtes du Mardi Gras. Ses danses, ses rythmes, ses costumes extravagants, ses excès et ses transgressions. Le carnaval est un défoulement collectif durant lequel le simple citoyen devient roi et le pouvoir sujet aux railleries et voire aux contestations. De toutes les nations célébrant la veille du carême, Haïti est la scène des musiques de carnaval les plus revendicatrices et militantes, alors que la majorité des merengues carnavalesques agacent le pouvoir. Haïti n'a certes pas le monopole du carnaval politisé. Le carnaval de Rio retrouve sa verve politique que titrait hier le journal Le Monde, alors que le traditionnel défilé brésilien des jours gras, les trois jours précédant le mercredi des cendres, premier des 40 jours du carême, a donné l'occasion aux cariocas de s'en prendre au pire maire de l'histoire de Rio, Marcello Crivella, dénoncé pour son puritanisme et son aversion pour les libations carnavalesques. À Trinidad et Tobago, si le soca s'accompagne généralement de textes inoffensifs, les chanteurs de calypso, eux, font de leurs compositions des éditoriaux tournant en ridicule les politiciens. Ni les musiciens brésiliens, ni les trinidadiens, dont le verbe acerbe est pertinent des auteurs-compositeurs-interprètes haïtiens. Ça prend du courage pour faire des chansons aussi engagées politiquement et socialement, estime Stéphane Lacroix, journaliste et animateur pour Téléradio Métropole, à Port-au-Prince, et spécialiste de la musique créole. À une certaine époque, c'était beaucoup plus difficile de s'exprimer. On connaît bien l'histoire de notre pays. Le droit à la parole en temps de dictature, point de suspension. Aujourd'hui, c'est la démocratie. On peut dire ce qu'on veut. Et beaucoup de musiciens disent justement tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. Dans son livre « Histoire du style musical d'Haïti », publié à Mémoire d'Encrier 2014, le musicologue et professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, Claude Dauphin, souligne qu'à Haïti, où le quotidien est régi par de fortes symboliques de classe sociale, le carnaval apparaît comme un moment exceptionnel de subversion, renversement des rôles, aplanissement des barrières, réfutation des comportements appris. Le discours contestataire fait aisément son nid dans cette fête traditionnelle, souligne le musicologue. Sur le plan collectif, le carnaval apparaît comme la réalisation d'un grand brassage social. Tous les ans, cette puissante symbolique du carnaval exerce son rôle de soupape de sûreté reportant dans un avenir mythique l'implacable raz-de-marée populaire qui emporterait les beaux quartiers comme fétus de paille. Tout est politique. La période du carnaval, qui débute un bon mois avant le Mardi Gras, est la plus importante manifestation culturelle d'Haïti, affirme Darline Honoré, journaliste au quotidien Le Nouvelliste. C'est une formidable vitrine où tout le monde peut se permettre de tout dire. Sans censure? Depuis peu, les propos jugés indécents, sexuellement ou misogynes, sont amendés. Mais la prise de position politique, elle, ne serait pas brimée, juge la journaliste qui ajoute que de toute façon, tout dans le carnaval est politique. Car la fête est organisée par un comité relevant du ministère de la Culture, lequel la finance par des subventions au bas mot 320 millions de gourdes, soit 6,3 millions de dollars selon le rapport « Cartographie de l'industrie haïtienne de la musique » publié l'an dernier par l'Association haïtienne des professionnels de la musique et l'UNESCO. Ce même comité, mis en place par le gouvernement, décide quels orchestres auront le droit de parader au Grand Carnaval national, mais les critères de sélection ne sont pas clairs. On ne sait pas pourquoi tel ou tel artiste n'est pas retenu pour le défilé du Carnaval national, observe Stéphane Lacroix, qui joint sa voix à plusieurs autres observateurs de la vie musicale haïtienne pour demander davantage de transparence. Ainsi, les artistes ne sauraient éviter le sujet politique, d'autant que le comité a lui-même politisé le thème du carnaval de cette année, rappelle Darline Honoré. Le slogan officiel? Haïti sous route changement. Alors, entre parenthèses, Haïti est sur la route du changement. Un thème perçu par certains observateurs comme une propagande pro-gouvernementale. La réponse musicale n'a pas tardé par la bouche du musicien Bic et sa populaire chanson « Haïti sous Wout Lipa Dewiye ». Entre parenthèses, Haïti n'est pas sur le bon chemin. Alors j'imagine que moi non plus, en ce qui concerne la prononciation, je suis allée avec la lecture à la française, si je puis dire. Il y a dans ce merengue carnavalesque la radiographie de notre société, avance Darline Honoré. Aujourd'hui, personne n'incarne mieux la délicate lutte de pouvoir qui se joue en coulisses que l'auteur-compositeur-interprète Rudy Rudeboy, qui brille de tous ses feux, explique Stéphane Lacroix grâce à son formidable merengue intitulé « Où Michonne ». Sur une entraînante rythmique électronique, le natif de Port-au-Prince ne ménage personne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il critique tout. Il critique le gouvernement, mais il critique aussi l'opposition. Il dénonce le fait que les enseignants ont du mal à recevoir leur paye, mais il dénonce aussi la casse des manifestations. C'est une des raisons pour lesquelles il a autant de succès. Or, après son triomphe au carnaval de Delma et des Gonaïves ces dernières semaines, le comité organisateur avait écarté Rudy Roadboy du grand défilé. Pourquoi? C'est la question que tous se posent, répond simplement Stéphane Lacroix. Il avait été sacré champion du carnaval l'année dernière. Il a fait ses preuves et son merengue est très populaire. Face aux vives réactions du milieu du public, le comité est finalement revenu sur sa décision. Rudy Roadboy sera ce soir du défilé, aux côtés du Barricade Crew, T-Vice, des maîtres de la musique Racine, Ram et Bookman Experience, et de l'ex-président Michel Martelly, alias Sweet Mickey, qui, lui, avait été écarté des défilés des carnavals des Gonaïves et de celui de Jacmel. Le gouvernement craint-il l'influence des artistes? Je n'irai pas jusque-là, dit Stéphane Lacroix, tout en reconnaissant que les précédents gouvernements aient pu être méfiants face aux groupes ou musiciens qui ont des paroles vraiment tranchantes, vraiment percutantes, très critiques du pouvoir. Certains, d'ailleurs, se sont vus privés de certains privilèges, le premier étant de ne pas être invité au défilé, la plus grande scène qu'un musicien peut souhaiter à Haïti. Saint-Valentin, le repas en amoureux sera l'option la plus populaire auprès des Québécois pour souligner la Saint-Valentin cette année, selon un sondage réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail. 45 % des répondants ont indiqué qu'ils allaient marquer la Saint-Valentin avec un repas spécial à la maison, alors que 36 % prévoient une sortie spéciale au restaurant. Les autres options pour souligner la fête sont un cadeau, 30 % une carte de souhait, 19 % et une activité coquine et confidentielle, 9 %. Au total, ce sont 46 % des répondants qui ont dit qu'ils allaient souligner la Saint-Valentin cette année. En moyenne, ceux qui souligneront cette journée des amoureux prévoient dépenser 67 $. Ceux qui prévoient dépenser le plus sont les personnes de plus de 65 ans, avec un montant moyen de dépenses de 90 $. Les trois types de cadeaux les plus populaires auprès des femmes sont les fleurs, le chocolat et des billets pour un spectacle. Pour les hommes, les répondants ont mentionné que le vin ou l'alcool en général, le chocolat et des billets pour un spectacle étaient les cadeaux les plus populaires. Les trois ont obtenu le score de 22 %. Le sondage a été réalisé via Internet auprès d'une communauté d'internautes, aléatoirement recrutée de 10 000 consommateurs. Au total, 1038 personnes ont participé au sondage entre le 16 et le 21 janvier. Je vous rappelle que la Saint-Valentin, c'est demain. Oui, la Saint-Valentin demain et aujourd'hui, on déclare notre amour à la radio puisque c'est la journée mondiale de la radio en ce 13 février. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Et si vous nous écoutez en direct, je vous attends pour l'émission Les Paractualités dans quelques minutes.